sur Radio Panique.
We want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time.
Bip Radio.
Bip Radio, projet participatif avec Dune et Radio Panique. Donc bonjour à tout le monde. Je fais un petit coucou quand même à tous mes potes qui font le ramadan. Vous êtes sur la fin, courage les mecs. Donc voilà. Alors, on va directement faire un tour de table. Et chacun a dit qui est là.
Bah, bonsoir, c'est Stéphane. Je suis déjà venu deux, trois fois. Je suis bénévole chez Dune, entre autres.
Et donc oui, Stéphane va faire partie de l'équipe technique. Mais étant donné que Marion n'est pas encore là, il va un peu m'assister dans tout ce qui est animation et tout. On a Lola à la technique. Donc bonjour Lola. Et alors Lola, on a une grande invitée qui aujourd'hui va nous parler de... Enfin, tu peux y aller. Enfin...
Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis travailleuse sociale et coordinatrice à Espace P. À Dune, j'allais dire.
Et aujourd'hui, on parle de...
Travail du sexe.
Travailleur du sexe. Alors, déjà, travailleur du sexe, est-ce qu'il y a une définition bien concrète de ce que c'est le travail du sexe? Parce que bon, c'est... Il y a plein de choses là-dedans, non?
Alors, oui, la notion de travailleur du sexe, à Espace P en tout cas, signifie l'ensemble des formes de services proposées par les personnes contre un échange d'argent pour des rapports sexuels ou des rapports tarifiés. Et donc, travailleur du sexe, en fait, ça englobe entre autres aussi les personnes prostituées comme... La majorité des gens peuvent le percevoir, mais également aussi chez nous, on entend aussi les personnes, par exemple, qui font du porno, les personnes qui font du webcamming, les personnes qui sont escortes ou qui font du BDSM sont dans le monde du travail du sexe. À savoir que c'est vraiment le secteur où on a un échange tarifié contre quelque chose qui a un rapport avec la sexualité.
On va revenir sur les travailleurs du sexe. On va quand même déjà présenter aussi ton association, dont tu es la coordinatrice depuis 25 ans, l'air de rien. Ce qui n'est pas négligeable, c'est un quart de siècle. Hein.
Oui, c'est vrai.
Et donc Isabelle, on va parler juste une parenthèse par rapport à Espace P, de ce qu'ils font comme service, de ce qu'ils offrent comme service. Donc
oui.
Voilà.
Et donc Espace P va bientôt fêter ses 35 ans, hein. On en parlera peut-être un petit peu après. Et donc Espace P est né dans les années, à l'époque du sida, où il y avait donc l'épidémie du sida. Et ce sont des médecins qui étaient infectiologues et gynécologues qui se sont penchés sur les risques de contamination auprès des publics à risque. Public à risque était aussi considéré, les personnes qui faisaient le travail du sexe à l'époque. Et c'était un public dont personne ne parlait, qui était complètement, en fait, sous le radar des préventions et de la réduction des risques par rapport au risque de contamination du VIH-SIDA. Et donc, ces médecins, en fait, se sont mis ensemble pour faire... une enquête épidémiologique auprès de ce public pour voir si les personnes étaient au courant de ce qu'était que le sida, si les personnes connaissaient les risques, les moyens de transmission, et si les personnes savaient se prémunir et se protéger par rapport à ça. Il s'est avéré que donc, lors de l'enquête, l'enquête a été menée à la fois à Bruxelles et quelques mois après à Liège. Et en fait, il s'est avéré que non seulement... les travailleuses du sexe étaient pas toujours informées et en plus aussi avaient pas mal de questions au niveau juridique, social, de leurs droits, de comment avoir accès à certaines informations parce que, de par l'activité qu'elles faisaient, elles étaient plutôt négligées par la société, en tout cas à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça qu'Espace P est né. Espace P est né de cette manière-là. Avec pour objectif d'accompagner les personnes, d'être vraiment dans une attitude non jugeante par rapport aux personnes qui font le métier du sexe et surtout de respecter le rythme le rythme de vie de ces personnes, avec des propositions d'offres de services gratuits pour tout ce qui concerne les dépistages concernant les infections sexuellement transmissibles, avec la possibilité de la vaccination contre l'hépatite B, aussi tout un travail de promotion de la santé et de réduction des risques par rapport aux IST, avec des informations sur que faire quand la capote claque, comment utiliser un préservatif au mieux, quels sont les risques aussi dans le métier, etc. Et puis aussi, ce qu'on offre, c'est un service social généraliste. Donc, on est vraiment là pour répondre à la demande et aux besoins des personnes de manière individuelle, de manière collective et communautaire aussi. Mais vraiment être dans une position où on accompagne les gens. Pas du tout dans l'idée d'être des sauveurs, loin de là, mais plutôt de rendre aussi le pouvoir d'agir à ces personnes. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu du sexe tarifié, ces personnes qui exercent cette activité sont souvent stigmatisées, souvent mises en rejet de la société et qui ont très peu de légitimité de parole. Et donc voilà, ça fait partie de notre travail. Et encore une chose qui est important et fondamental dans notre travail, c'est tout le côté qui touche au changement des mentalités, sensibilisation des personnes, pour que toute personne qui croise un jour une personne qui exerce le travail du sexe ne soit pas dans une posture de jugement, ne fût-ce que dans son regard, dans sa manière d'être, etc. Parce que ce sont des personnes qui sont quand même très sensibles aux autres. Il faut savoir que par exemple, les travailleuses du sexe elles n'ont que quelques secondes pour choisir le client. Et donc, elles sont dans une posture où elles sont vraiment attentives à tout le non-verbal que va avoir la personne en face d'elles.
Est-ce qu'elles font vraiment un choix ou bien c'est plus par rapport à des besoins financiers ou autres, je ne sais pas.
Alors, c'est vrai que la question du choix est toujours posée quand on parle de travail du sexe. Travail du sexe porte bien le terme travail, donc assimilé à un métier. Faut savoir qu'avec la décriminalisation en plus, on espère vraiment que les mentalités vont encore plus évoluer et encore plus changer pour être vraiment au plus près d'une société inclusive pour ces personnes.
Et là, on parle de droits qui sont accordés maintenant aux travailleurs du sexe.
Oui, tout à fait. Mmh. Et donc, la question du choix, moi, je la transpose toujours à la question du choix, par exemple, pour les personnes qui sont caissières dans des supermarchés. Pour des personnes qui vont être balayeurs de rue, pour des personnes qui vont choisir un métier qui est précarisé, qui est stigmatisé, qui n'est pas toujours bien reconnu, est-ce qu'on leur demande s'ils ont fait le choix de faire ce métier-là ? Je pense que la majorité vont répondre que ce n'est pas un choix initial, que c'est un besoin alimentaire, que ce sont des raisons économiques à la base. Mais tout métier, c'est comme ça. Tout métier, c'est a priori pour des raisons économiques. Alimentaire. Moi, mon boulot, c'est alimentaire aussi, même si je suis passionnée par ce que je fais. Mais ça reste quelque chose pour aussi recevoir un salaire en fin de mois. Alors, les personnes qui font cette activité, quand on leur pose la question, elles vont te dire, non, pas par choix, parce que je n'ai pas le choix. Parce que souvent, elles cumulent aussi des vulnérabilités ou des mécanismes de précarisation qui vont faire qu'elles ne peuvent pas faire une autre activité. Mmh. Elles ne sont pas en ordre de séjour, elles ne parlent pas français, elles ont dû quitter l'école très tôt, elles ont un manque de confiance en elles terrible. Voilà, il y a plusieurs éléments qui vont faire qu'une personne, à un moment donné, va entrer dans cet univers-là. Mais si on leur pose cette question du choix, une fois sur deux, elles vont dire non. Par contre, nous, ce qu'on constate, et c'est leur discours pour la plupart, c'est que le choix se pose dans un deuxième temps. Parce qu'elles expérimentent, elles testent, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas dans le sens où c'est l'éclate, mais dans le sens où c'est acceptable. Et que ça devient quand même une activité auquel elles peuvent quand même trouver quand même, un intérêt. Et donc, elles restent dans le système.
En même temps, en tout cas pour une grande partie des travailleurs, je suppose que c'est un secteur où c'est un peu l'argent, entre guillemets, facile.
Rapide.
Je sais pas facile. Ou rapide, facile.
Rapide et facile, c'est pas la même chose.
Oui, voilà.
Et on ne demande pas de compétences particulières non plus. Enfin, je sais pas. Je m'y connais assez mal.
J'ai pas entendu.
On ne demande pas non plus de. Enfin, il n'y a pas une formation par rapport à des choses. Enfin, ce secteur-là.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. C'est de l'argent qu'on a rapidement en main, mm-hmm. parce que c'est de l'argent qui n'est pas toujours déclaré, qui n'est pas toujours déclarable non plus, et pour lesquels bah, la société a du mal à accepter aussi cet argent-là. Les mentalités qui ont pour connotation plutôt d'être abolitionnistes vont dire que c'est de l'argent facile, mais en fait pas du tout, c'est vraiment de l'argent que l'on a peut-être rapidement en main, mais qui n'est pas facile. C'est un métier spécifique, avec des conditions particulières pour travailler. Tout le monde n'est pas fait pour faire cette activité-là. Il faut avoir quand même la capacité d'utiliser son corps comme instrument de travail, à des fins d'intimité, de sexualité, de contact de peau à peau avec l'autre, et d'avoir la capacité de faire la distinction avec le sentiment amoureux. Mmh. Et donc tout le monde n'est pas capable de pouvoir faire cette distinction-là, ce qui fait que voilà, y a des gens qui peuvent le faire et d'autres pas. Mais ça reste quand même une activité spécifique, compliquée. Tu parlais de formation, il n'existe pas de formation en tant que telle par rapport au risque du travail, parce que c'est un métier à risque malgré tout. Mais par contre, entre elles ou entre YEL, ils se donnent des bons plans. Des codes de sécurité, comment est-ce qu'on met une capote sans la claquer, etc. etc.
Mmh. Tu voulais dire un truc ?
Ouais, je voulais dire un truc, une petite question. Je suppose que c'est une question un peu délicate. Mais les travailleuses, enfin, les travailleurs en général, ils sont vraiment indépendants ici ou il y a quelqu'un qui a la main mise sur eux, quoi.
Alors, justement, on va reprendre un peu, justement, quand tu dis métier, est-ce que c'est une profession reconnue, tolérée, ou bien est-ce que ça a changé par rapport aux droits qu'ils ont maintenant ?
Enfin, alors oui, il y a 2 ans, donc, il y a eu la réforme du code pénal sexuel qui a permis, en fait, la décriminalisation du travail du sexe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, c'était pas criminalisé, donc on pouvait faire l'activité de prostitution, on ne risquait rien. Mais tout ce qui faisait, ou tout ce qui contribuait à l'organisation de l'activité était criminalisé, potentiellement criminalisé. Mais on est en Belgique, c'est du belgo-belge, et donc on était plutôt dans une posture de tolérance par rapport à tous ces mécanismes d'organisation. Donc les vitrines, les tenanciers de bordel, les petites annonces, etc., c'était toléré. Or, dans la législation avant, on ne pouvait pas mettre des choses en place pour organiser l'activité. La décriminalisation du travail du sexe a levé ça. Et donc, ça veut dire que maintenant, toute personne qui organise ou toute personne qui est une tierce partie, comme on dit, n'est plus du tout incriminée. Okay. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que maintenant, on peut créer l'organisation de l'activité. Et donc, créer l'organisation de l'activité, ça veut dire mettre un cadre du travail légalisé qui permet de donner des droits fondamentaux. Donc, ce n'est même pas des droits extraordinaires. Ce sont les droits de base de toute personne qui exerce une activité rémunérée, auxquels avant, ben, les travailleuses du sexe n'y avaient pas accès, à l'exception du statut d'indépendant. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Ici, on est en bout de course de la législature. Il y a la volonté politique de faire passer donc, la proposition de loi du cadre du travail qui est passée en première lecture la semaine dernière au Parlement en affaires sociales au niveau fédéral. Il y a une deuxième lecture normalement planifiée dans le courant de la semaine prochaine. Et si tout va bien, et on espère vraiment que tout ira pour le mieux, ça devrait être voté au niveau de la Chambre du Parlement le 8 mai, parce que c'est là où il y aura la dernière plénière avant la fin de la législature, avant qu'il ne passe en affaires courantes, où là, il ne vote plus rien.
Je me demandais, au niveau pratique, ça sous-entend aussi que les travailleurs du sexe peuvent fonctionner avec un contrat de travail ou des choses comme ça.
Oui, c'est ça. Donc, le cadre du travail, c'est vraiment dans un contexte de statut d'employé et d'employeur, avec donc un contrat salarial. Jusqu'à présent, existait le statut d'indépendant ou le non-statut. Donc, voilà. Ou le bricolage. Hein. À savoir que c'était des faux contrats de serveuse, des faux contrats de masseuse. Enfin, bon, voilà. d'un contournement de la législation pour, à minima, être dans une forme de zone grise qui était tolérée par la société. Maintenant, si cette proposition de loi passe, eh ben, va permettre justement la création d'un contrat de travail. Donc ça voudra dire qu'il y aura un employeur qui devra répondre à beaucoup de conditions quand même pour montrer patte blanche, histoire de ne pas être quelqu'un qui a eu des condamnations, comme tu disais, voilà, d'exploitation,
de proxénétisme
et tout ça. Voilà. Il faudra quand même qu'il y ait des conditions de sécurité importantes, avec un bouton d'alarme, avec une personne de référence, avec quand même pas mal de critères pour que la travailleuse du sexe puisse travailler de manière safe, le plus sécurisée et sécurisant possible pour elle. Et donc, voilà, mais on n'est qu'au début, hein, parce qu'une fois que cette loi va être votée, il faudra quand même discuter encore avec les syndicats, avec le banc patronal. Bon, voilà, la création de tout ça, ça va encore prendre beaucoup de temps.
Oui, d'autant que, bon, il y a des travailleurs qui sont dans un contexte bien spécifique qui est en vitrine, on va dire. D'autres sont en rue, et je pense que ça va changer. Justement, à ce propos, est-ce qu'il y a des catégories ou des niveaux différents dans le milieu des travailleurs du sexe?
Alors, je pense que, un peu dans, comme dans d'autres secteurs, il y a en effet une classification qu'elles se font elles-mêmes, à savoir que les personnes qui font du SM, donc sadomasochisme, ne s'identifient pas spécialement comme travailleurs du sexe. Les personnes qui font du porno ne s'identifient pas comme travailleurs du sexe, ce sont des acteurs, pas des travailleurs du sexe. Les personnes qui font du webcamming, par exemple, donc qui n'ont pas de contact physique directement, jamais pour certains, ne s'identifient pas. Par exemple, les étudiantes, ou celles qui ont recours au sugar daddies, eh bien, elles ne s'identifient pas à l'univers du travail du sexe et considèrent que les autres formes, c'est du travail du sexe. Or, pour nous, c'est pareil. Hein. Et puis, tu as les escorts.
Que ce serait une upper class, quoi.
Voilà, c'est ça. Et par exemple, les escorts, elles se reconnaissent comme étant en haut de la gamme, mais pas comme prostituées. Les prostituées sont celles qui sont en bas. Hein, donc en bas, dans le sens, celles qui sont plus précaires, celles qui vont travailler dans les vitrines. Par exemple, rue d'Arscott, ce sont des salons de prostitution. Eh bien, tu as donc l'escorting, les maisons privées, et puis après, les salons de prostitution rue d'Arscott. Puis tu as les carrés. Les carrés, ce sont des rez-de-chaussée qui sont loués avec un contrat de bail privé dans le quartier nord, où la travailleuse du sexe, puisque là, ce sont exclusivement des femmes, loue l'emplacement pour un contrat de bail privé. Et puis après, tu as le travail du sexe de rue. Donc, voilà. Après, maintenant, on a aussi les nouvelles formes hein, de prostitution suite
GSM et tout ça, je suppose.
Voilà, c'est ça. Ouais. Internet a beaucoup changé les modèles de contact avec les clients aussi. Et tu en as vraiment beaucoup qui passent par Internet, qui postent leurs annonces en ligne ou qui travaillent par des...
Le Covid avait influencé tout ce qui est le travail de proximité, on va dire.
Oui, c'est ça. Donc, en période Covid, alors ça a été une période quand même dramatique pour ces personnes parce qu'elles n'avaient aucun droit. Et donc, du jour au lendemain, elles n'ont plus de quoi se nourrir. On a vu quand même des situations assez terribles, hein, parce qu'on avait des TDS qui ne nous avaient jamais contactés à la base, qui n'avaient pas besoin de nous. Il faut bien se dire une chose, espace PLA, mais espace PLA pour répondre aux besoins des TDS, mais il y a des TDS qui n'ont vraiment pas besoin d'espace P, et tant mieux. Hein, ça veut dire qu'elles arrivent à gérer leur business, à être autonomes, indépendantes, etc., dans leur travail. Eh bien, on a eu des appels de ces personnes parce qu'elles n'avaient plus de quoi se nourrir, plus de quoi nourrir leur famille, plus de quoi payer le loyer. Et elles étaient vraiment dans des situations d'extrême précarité. Quoi. Ça a été vraiment terrible pour l'ensemble du public. Et donc, c'est vrai qu'on a vu un basculement. Hein, des TDS ont commencé à poster en ligne leurs annonces. Et puis, certaines ont arrêté de travailler parce qu'elles avaient un petit bas de laine, mais d'autres pas du tout. Et donc, voilà, elles ont un peu contourné le système pour quand même avoir de quoi se nourrir.
Donc, ce qu'on voyait dans les films à l'époque, style un gars qui sortait avec une travailleuse du sexe, il était considéré comme proxénète. Je ne sais pas si c'était vraiment vrai dans la réalité ou si c'était une légende urbaine.
Légèrement, on parle de Mac, en fait.
Oui. Mais si tu sors avec une...
Je sais pas. Mais
c'est ça le problème. À ce qui paraît, les gars qui sortaient avec une fille étaient considérés automatiquement... et s'ils vivaient dans le même appartement, ils étaient considérés comme Mac.
Oui, alors il y a une époque, c'était ça. Hein, le mari, par exemple, d'une personne qui faisait le travail du sexe était considéré comme macro. Bon, après, ça, heureusement, ça fait déjà bien avant la décrime, ça avait déjà changé. Par contre, l'abus de prostitution et le proxénétisme est toujours bien présent. J'insiste bien là-dessus. C'est qu'il y a toujours
des réseaux.
Des peines. Oui, mais la loi. Protège quand même toujours les personnes qui sont victimes de proxénétisme et d'abus de prostitution, et que on entend par abus de prostitution et proxénétisme toute personne qui va forcer la personne à exercer l'activité, toute personne qui va poster des annonces à sa place, choisir les clients à sa place. Donc, déroger complètement aux quatre libertés des travailleuses du sexe. Hein,
prendre tout son salaire ou une grosse partie de son salaire.
Ouais. Et puis, alors, tu as ce qu'on appelle aussi la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, parce que la traite des êtres humains existe dans plein d'autres métiers, hein, dans l'horeca, dans le bâtiment, dans l'onglerie, dans le travail domestique et autres, et aussi, malheureusement, dans le travail du sexe. Et là, ce sont des mécanismes où... Bien, la personne n'a plus du tout de mobilité, de liberté d'action. On lui prend ses papiers. Elle est souvent très contrôlée.
Ils ont des moyens de pression dans leur pays, quoi.
Oui, alors on peut aussi être victime de traite des êtres humains en Belgique, en étant belge. Hein. Donc, ce n'est pas assimilé que à des personnes qui viennent d'autres pays. Ce sont des mécanismes vraiment d'emprise et de violence sur autrui.
Parce que justement, quel est comment se passent les relations entre tout ce qui est policier travailleurs? Parce que bon, il n'est pas évident d'aller dans un commissariat et dire ben voilà, je suis victime de telle chose et je suis
travailleur du sexe. Travailleur.
Ou travailleur.
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. Déjà, nous, on est sur le terrain, donc c'est aussi quelque chose d'important à savoir, c'est qu'Espace P fait énormément de maraudes. Donc, on va très souvent, on passe beaucoup d'heures dans les lieux où s'exerce l'activité, aussi bien dans l'espace public, donc dans les salons, dans les carrés, en rue, comme dans les privés. On a aussi des permanences en ligne sur les sites qui sont dédiés à cet effet. Et... on identifie, on a ce qu'on appelle les indicateurs d'exploitation et de traite. Donc, quand la personne est très vite contrôlée, donc dès qu'elle nous parle, le téléphone sonne. Dès qu'elle veut venir au bureau pour faire un dépistage ou avoir répondre à des questions sociales ou autres, elle est toujours accompagnée par quelqu'un qui veut contrôler ce qu'elle dit, etc. Et donc là, ce sont des indicateurs pour nous où la personne n'a pas sa totale autonomie. Quand on lui demande une copie de sa pièce d'identité pour introduire, faire des démarches et autres, elle ne les a jamais sur elle, elle ne les a pas. Il y a des phénomènes, des indicateurs qui nous montrent que cette personne, elle n'a pas toute sa liberté. Et c'est là où on essaye de vraiment travailler aussi dans le lien de confiance après, et de l'informer qu'il y a une loi ici qui protège les personnes qui sont victimes de traite des êtres humains et que si elles le souhaitent, on peut les accompagner. Donc on travaille en réseau aussi avec les centres de traite qui sont vraiment spécialisés sur ces questions-là. Il y en a trois en Belgique, un à Liège, un à Anvers et un à Bruxelles. Et alors avec la police, eh bien, on travaille avec certaines fonctions de police. Par exemple, la cellule Mœurs, qui, qui a des équipes qui sont vraiment formées, spécialisées pour essayer de détecter les victimes potentielles, de créer un lien de confiance avec ces personnes-là, de leur expliquer qu'il y a des lois qui peuvent les protéger, mais c'est très compliqué, hein, c'est un travail très très lent.
Mmh. Il y a, juste sur ce sujet-là, il y a des gens qui en sont sortis, enfin, des personnes qui... Vous avez des chiffres ou des stats?
Alors, pour Bruxelles, l'année passée, on a accompagné 9 personnes qui étaient des victimes potentielles. Alors, on dit victimes potentielles dans la mesure où nous, on a des indicateurs.
Oui, vous avez ressenti, quoi.
Mais il y a toute une procédure qui fait que parfois, la personne, elle ne tient pas jusqu'au bout. Parce que c'est contraignant. Elles doivent quitter le milieu de prostitution, elles doivent dénoncer tout le réseau, donner des noms, vraiment rentrer dans les détails, etc. Et parfois, c'est la pression, tu parlais de pression au pays, etc. Ouais. Mais pour certaines, la pression est tellement forte qu'elles décident d'arrêter en cours de route.
Elles rentrent dans le rang, quoi. Ouais. Malheureusement. Oui.
On se demandait s'il n'y avait pas...
Une ghettoisation, enfin...
Oui, voilà, si on peut appeler ça comme ça. Par exemple, il y a un certain type de travailleurs rue d'Ascot, des autres rue des Plantes et encore des autres, Louise.
C'est plus des... Enfin, rue d'Ascot, c'est plus des filles de l'Est, j'ai l'impression. Et plus des Africaines, quoi. Mmh.
Oui, donc, alors...
Derrière, dans les petites rues, quoi.
Alors, c'est aussi un peu historique, hein, parce que... Donc, moi, ça fait 25 ans que je suis là. Et quand j'ai commencé, eh bien, dans les carrés, donc tout ce qui était... tout ce qui est rue Plante, rue de la Rivière, rue Linné, etc., eh bien, il y avait beaucoup de Belges et des Congolaises.
Tu parles de travailleurs,
là. Non, travailleuses du sexe. Oui, c'est ça. Et donc... C'était vraiment une grande majorité de ces personnes-là. Et rue d'Ascot, c'était des Belges et des Albanaises, exclusivement. La grande majorité. Donc déjà des filles de l'Est. Et puis, le public a changé. Les Belges sont partis à la pension. Et pour faire reprendre, en fait, leur carré, elles se sont rendues compte qu'il y avait moyen de se mettre aussi, quand même... un certain bénéfice, à savoir que quand tu remets ta carré, tu remets aussi ce qu'on appelle le pas de porte, qui est un certain montant à payer. Et certaines, pour la remise de pas de porte, ça revenait à 15 000 euros, d'autres 10 000 euros. Mais il y en a qui ont demandé plus. Et pour demander plus, il faut avoir les moyens pour pouvoir payer et rentrer dans la carré. Et c'est là où tu as un phénomène de réseau qui parfois est venu s'installer. Où ce sont plus des personnes issues d'Afrique nigériane, du Nigeria, qui sont installées là et qui sont pour la plupart victimes d'exploitation ou qui l'ont été. Alors, le problème de ces carrés, c'est qu'il y a ce que nous on appelle un proxénétisme immobilier, à savoir que tu as l'équivalent de la pièce ici, un tout petit peu plus grand. Et donc je disais tout à l'heure, c'est bien un rez-de-chaussée avec un contrat de bail privé. J'insiste vraiment là-dessus parce que le prix varie entre 1300-1350 euros par mois à 800 euros par semaine pour cet espace-là. Qui, la plupart du temps, est insalubre, dans un quartier qui périclite depuis de nombreuses années. C'est vraiment devenu un quartier qui est vraiment abandonné des pouvoirs publics. Enfin, c'est notre regard, hein. Après, chacun a le sien. Et pour lesquels, les TDS qui sont là se retrouvent dans des stratégies de survie aussi au niveau du boulot et du travail, parce que depuis, tu parlais du Covid tout à l'heure, à la sortie du Covid, on s'est rendu compte aussi que la reprise du travail s'est faite à 80% présentiel et 20% télétravail. Parfois, c'était 50-50. Et la majorité de la clientèle des personnes qui exercent dans la gare du Nord, ce sont des gens qui viennent travailler. sont pas des habitants, sont pas des personnes qui vivent dans le quartier. Ce sont plutôt des gens qui viennent travailler.
Des navetteurs.
Des nafteurs, une grande partie. Des gens qui sont dans les bureaux, même s'ils habitent Bruxelles, ben, ils passent par là. Et comme le télétravail a quand même encore la cote, eh bien, il y a eu une diminution d'une certaine qualité de clientèle. Après, quand on est rue d'Arscott, les salons, eh bien là, c'est encore un autre système. Le système, là, c'est que tu loues l'emplacement pour 12 heures par jour. Et là, bien, la location, donc tu loues la vitrine, donc tu loues, si tu veux, ton tabouret, ta vitrine et une chambre. Et que bah là, ça revient entre 200 et 250 euros par jour.
Par personne.
Par personne, pour un chiffre de 12 heures. Ce qui veut dire que bah, souvent, les premiers clients, bah, c'est pour payer son shift avant de pouvoir mettre de l'argent de côté. Elle paye aussi la dame ou l'homme de compagnie. Donc, il y a une personne qui est là pour, entre guillemets, veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de soucis, etc. Et donc, ce sont les TDS qui travaillent dans les salons rue d'Arscott qui payent la dame de compagnie. Et donc, voilà, ce sont des mécanismes différents. Le temps aussi est différent qui est consacré. Hein. Rue d'Arscott, c'est entre 15 et 20 minutes, 25 minutes. Dans les carrés derrière, parfois, c'est le même tarif. C'est un tarif moindre, mais pour la même durée de prestation. Donc, c'est aussi pour 15, 20, 25 minutes. Ça dépend de ce que demande le client.
Moi, je pensais que c'était quand la demande est finie, que, sans compter le temps, en fait.
Non, si tu veux, la TDS, elle choisit la pratique, les pratiques sexuelles qu'elle fait. Elle choisit la durée qu'elle va consacrer au service avec ce client-là ou avec un autre. Et elle choisit le tarif. Et donc, elle va aussi être dans une négociation. Hein. Elle ne va pas se baser sur l'aspect physique de la personne.
Mais le client a des exigences, je suppose, non ?
Alors, le client a des demandes.
Ah, oui, ou des demandes.
Tu vois, il a des fantasmes. Certains ont des fantasmes ou des souhaits bien précis, bien spécifiques, bien particuliers aussi, que seule une travailleuse du sexe pourrait être super à l'aise pour y répondre. Et que finalement, ben, le client, il vient, mais avec timidité. Il ne vient pas avec assurance, hein, pour la plupart, parce que, ben voilà, ils sont pas toujours hyper à l'aise non plus. Certains le sont, mais pas tous. Et donc, la travailleuse du sexe, elle accepte ou elle accepte pas. Hein? Mais en tous les cas, il y a une négociation. Et c'est toujours la TDS qui va décider à la fin. Le client, il peut rien imposer, là, pour le coup. La seule chose, c'est qu'on constate, c'est qu'il y a quand même parfois des clients qui dérogent au contrat moral établi. Donc, si la pratique, c'est 15 minutes, c'est une fellation, et puis l'amour, et puis voilà, comme elles disent, et qu'il veut plus, parce qu'il n'a pas pu jouir, parce que c'est venu trop vite, parce que ceci, parce que cela, là, bah, elle le met dehors, quoi, en général.
Oui. Par contre,
et ça se passe bien, en général, ou pas? Ou les retours que vous avez dans une situation?
Alors, de manière générale, ça se passe bien. Il arrive quand même qu'il y a des personnes qui sont là pour tirer profit des vulnérabilités de certaines TDS. Et c'est là où ils se trompent. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle la TDS va faire, c'est de se défendre, quoi. Et là, parfois, ils sont quand même à côté de la plaque. Mais tu as des gens qui sont violents, hein, et qui ne sont pas des clients, du coup, hein. Ce sont des gens qui se font passer pour des clients, mais qui ont une intention malveillante derrière, qui n'est pas du tout l'intention d'avoir recours à une pratique
classique. Quoi.
Classique. Ouais. Après, tu as des clients, quand ils sont frustrés ou qui ne sont pas bien, ils réagissent parfois mal. Quoi.
Par contre, je vais revenir un peu à Espace P et tout ce qui tourne autour de la réduction des risques. Qu'est-ce qui est mis en place par rapport à ça, en fait ?
Alors, Espace P fait tout un travail de promotion de la santé concernant les IST et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Aussi bien en permanence médicale au bureau, mais aussi on se déplace avec le médecin. Et donc, le médecin va dans les salons rue d'Arscott, va dans les carrés, va dans un hôtel, bah, le dernier d'ailleurs, l'hôtel de passe qui se trouve dans le quartier Isère. Et à côté de ça, eh bien, on fait de la réduction des risques pour les personnes travailleuses du sexe qui sont aussi en situation d'assuétude et qui sont plutôt polytoxicomanes et qui consomment plus exclusivement ces derniers temps du crack. Où voilà, on est dans un travail de distribution de matériel, mais pour lesquels, ben, à l'heure actuelle, on n'a pas spécialement de subvention pour acheter, ben, voilà, les pipes à crack, entre autres. Et donc, on fait appel au réseau, hein, aux associations telles que Dune, d'ailleurs, qui...
Justement, ils ont sucré une grosse partie du budget pour les pipes chez Dune.
Ouais.
28 000 euros, ou, enfin, beaucoup, un gros subside passe à la trappe.
Et donc, voilà, on travaille avec Transit aussi, qui parfois nous dépanne et autres. Mais c'est vrai que historiquement, Espace P a toujours eu un lien aussi de travail rapproché avec le milieu de la toxicomanie, puisqu'on a eu toute une période, ben, des personnes injectrices qui venaient chez nous aussi. Au début, par exemple, du traitement de la méthadone, donc ça remonte quand même il y a quelques années, hein, déjà, eh bien, les TDS n'osaient pas aller dans les antennes et les ben, c'était le Lama à l'époque, hein, tout au début, aux permanences, parce qu'elles y voyaient leurs dealers et elles se sentaient stigmatisées parce que travailleuses du sexe. Mmh. Et donc, on a travaillé en collaboration à l'époque, je vous parle de ça, il y a...
25 ans.
Plus même. Plus, quand je suis arrivée, c'était déjà là. Mm-hmm. C'était déjà un projet qui existait déjà. Et où il y avait un médecin qui venait faire des consultations chez nous pour ce public-là. Et puis, voilà, après, on a travaillé avec le réseau d'aide aux toxicomanes, où là, c'était un médecin généraliste qui faisait les permanences, mais toujours orienté vraiment vers ce style de consommation. Et puis, on a eu beaucoup moins de demandes. Et donc, la permanence n'avait plus lieu d'être puisque les personnes étaient directement réorientées vers les services existants. Parce qu'il y a quand même maintenant plus d'offres qui existent. Mais par contre, depuis quelques années, on se rend compte clairement de cette polytoxicomanie qui est très compliquée pour ces personnes et qu'elles se retrouvent dans des stratégies de survie aussi parce qu'elles sont... en rue, elles font le travail du sexe, mais elles font le travail du sexe clairement par survie, et que parfois elles se retrouvent à être dans des squats, à consommer avec la personne qui veut bien tolérer qu'elle soit présente, et en même temps, en échange, ben, on fait un petit rapport sexuel, et puis tu peux avoir un toit pour la nuit. Donc il y a des mécanismes comme ça, quand même, d'emprise et de violence qui sont inhérentes au milieu de la rue, en fait. Vraiment, où ces personnes sont vraiment dans des situations d'extrême vulnérabilité.
Oui, et quand je parlais aussi de réduction des risques, c'est aussi, je suppose qu'il y a des séances, c'est au niveau des droits ou des qui sont octroyés, enfin, aux travailleurs.
Oui, dans la réduction des risques, on fait aussi tout un travail de sensibilisation par rapport à la violence, qui est inhérente à l'activité, qui est une violence à multiples facettes. Donc, tu as déjà la violence institutionnelle, qui est assez effrayante. Malheureusement, d'où les modules de sensibilisation que l'on fait, de formation auprès des travailleurs de fonctions publiques, hein, les gardiens de la paix, la police, les gens dans les CPS.
La STIP, non.
Mais tous les gens qui travaillent en rue, les éboueurs, ou peut-être.
Alors, on n'est pas. C'est dans nos projets, en tout cas, de continuer à aller vers eux, ça c'est sûr. Et puis alors, tu as les habitants qui parfois ont du mal à tolérer la présence de ces personnes en rue. Surtout, je pense surtout au quartier Alhambra, quartier Isère, qui est vraiment malmené par des comités d'habitants qui sont anti-putes, en fait, hein, complètement, qui font un amalgame complet parce que les personnes qui travaillent en rue dans le quartier Isère sont autant victimes que les habitants des violences inhérentes au quartier. Et alors, tu as la violence aussi des gens et des passants. Et depuis qu'il y a les réseaux sociaux, c'est très compliqué, hein, parce que, et ça, les filles, par exemple, Rue d'Arscott s'en plaignent énormément, c'est qu'il y a des gens qui les filment et qui postent ça sur TikTok directement. Et filmer n'est pas interdit, mais le diffuser l'est. Et donc, c'est là où c'est compliqué, c'est qu'on ne peut pas mettre un policier à côté de chaque personne, et que la loi est quand même fort... Enfin, voilà, c'est une vraie zone grise. Mais bon, les filles qui sont russes d'Arscott n'ont pas envie d'être identifiées, et elles ont vraiment peur d'être identifiées. Et donc... Voilà, donc il y a aussi tout un travail qui doit se faire autour de ces phénomènes-là qui sont quand même vraiment très, très embêtants dans la mesure où on a très peu de prise et de marge de manœuvre. Ça, ouais. C'est très compliqué, quoi.
Tu as une question ?
Ouais, une petite question. Par rapport à un truc que tu disais tout de suite, tu disais il y a les vitrines et il y a les carrés. C'est quoi, en fait, une vitrine ? Enfin, une vitrine et un... Enfin, j'ai pas tout à fait compris.
Alors, c'est le système, parce qu'en effet, elles sont toutes les deux en vitrine.
Ah oui, c'est OK.
C'est
c'est pas le lieu physique qui change, quoi. Okay.
Non, non, c'est le système. Donc, okay. Si tu veux, la carrée, t'as une vitrine,
ouais.
En effet. mais c'est le mécanisme d'occupation qui est différent.
Oui, ce que tu c'est disais ça. Avec quand elle restait 12 heures,
ouais,
machin, ou qu'elle loupe. OK, oui, j'ai compris.
Ouais, ouais, okay, c'est
ouais.
Ça. Ouais.
J'espère que les auditeurs ont aussi compris.
Voilà, ouais. Oui, tu fais bien de préciser. Bah,
oui.
Bah, c'est là où on peut parler de catégorie, parce que bon, je suppose qu'il y en a, on aura pas. Par les appartements, qui servent de logement, mais en même temps de lieu de travail. Il y en a qui sont en rue, il y en a qui sont en vitrine. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là. Mais tu parlais aussi, Steph, d'un truc économique, là, entre peut-être le bas, le haut.
C'est plus, si j'ai bien compris, une autre vision, une autre approche économique, quoi. Enfin, je veux dire...
Mais ce sont des mécanismes de survie qui ne sont pas vraiment, à mon sens, opérationnels. Mais
alors,
ce qu'il faut
quoi.
Savoir, c'est que les femmes nigériennes qui sont victimes de traite, elles doivent payer le loyer, mais elles doivent rembourser.
Ah,
et
oui.
Le remboursement s'élève entre 40 et 65 000 euros.
Waouh.
Et donc, ça veut dire qu'elle travaille 7 jours sur 7.
Un remboursement pourrait être venu ici.
Ça, oui, ouais. C'est ça. Donc, ouais. Si tu veux,
d'être humain,
dans ces mécanismes de traite et d'exploitation, ce sont des personnes qui sont dans un contrat moral autour qui a été fait avec la famille, parfois, souvent d'ailleurs, avec un sorcier, parce que voilà, au Nigeria, ils croient en la magie noire, au vaudou, à la sorcellerie. Et donc, ils scellent un contrat entre la personne qui va l'emmener en Europe pour travailler et permettre d'aider la famille, etc.
Mais au départ, elles ne savent sûrement pas.
Alors, ça dépend. Tu en as qui savent et il y en a qui ne savent pas du tout, mais c'est tout le trajet migratoire qui est d'une extrême violence, parce qu'elles traversent le désert en voiture, en camion, elles subissent des violences, des viols. Enfin, elles sont, entre guillemets, comme ils disent, formées à ce qui va les attendre, mais d'une manière totalement inhumaine et violente. Et puis, quand elles passent par les bateaux, elles arrivent en Italie, elles arrivent... Et puis, elles arrivent en Belgique. Et quand elles arrivent en Belgique, en fait, elles doivent rembourser. Elles doivent rembourser la mama, parce que ce sont des maquerelles, en fait, qui sont dans les mécanismes d'exploitation de ce côté-là. Enfin, de ce côté-là concernant les femmes nigériennes. Et que la grosse difficulté, c'est que... elles ne connaissent pas la langue, elles arrivent ici, elles ne savent pas où elles débarquent, on les met dans une carrée, on leur dit maintenant tu vas rembourser, tu vas travailler, tu acceptes tous les clients pour pouvoir rembourser. Et dans leur tête, 20 euros c'est beaucoup pour elles, parce qu'elles viennent d'une représentation économique qui est complètement différente de la nôtre. Et que peut-être qu'elles se disent, au plus elles font de clients à peu d'argent, au plus elles vont finir par avoir...
Rembourser plus vite, quoi.
Ce qui est très compliqué. Et puis, il faut dire aussi ce qui est. Dans le quartier, les clients, ils ont un peu peur de venir pour le moment. Depuis des mois, c'est très compliqué. Et donc, la clientèle qui est là n'est pas une clientèle très, très safe non plus, quoi. Donc, c'est vraiment complexe. Hein.
C'est pas le petit pensionnier qui vient claquer sa petite pension, quoi.
Il doit y en avoir,
mais de moins
je pense
en moins,
que
quoi.
C'est de moins en moins. Ouais, ouais.
Quand tu dis pas très safe, c'est quoi, au niveau de l'hygiène, c'est comme ça ?
Non,
c'est pas safe au niveau
qualité...
du quartier, parce qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de guerres de gangs dans le quartier, c'est tous les jours. Quoi,
il y a eu des morts il y a 2 semaines, 3 semaines.
Il y a des fusillades.
Des fusillades,
Et par contre, Espace P, vous n'avez pas les... des petits soucis. Enfin, il n'y a jamais eu des petits soucis entre les entre guillemets, patrons de travailleurs, ou on dit comme ça.
Entre les proxénètes et...
Et vous ?
Et nous, non. Alors...
Parce que genre, quand tu informes des droits ou des trucs comme ça, ça va... ça permet une certaine indépendance des travailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, de manière générale, on n'a jamais eu de soucis. Mais il s'avère que c'est vrai qu'avec les mamas, ce n'est pas évident. Parce que ce sont aussi des personnes que l'on vient, qu'on aide parfois au niveau social, parce qu'elles aussi travaillent. Mmh. Et donc, la balance n'est pas évidente. On n'a jamais eu, nous, de violence directe. Mais on a eu des messages très clairs. Du style, il y avait des TDS lors du travail de rue qui nous avaient dit, donc dans les carrés, à plusieurs reprises, surtout la nuit, elles nous disaient « Ah, mais ça va plus, il y a beaucoup de violence, et puis les prix, il y en a qui font ces prix-là, d'autres qui font là, tatatitatata, il faudrait qu'on puisse en discuter entre nous à Espace P. » Nous, tout à fait preneurs. Ok, on organise une séance de rencontre pour parler, mais voilà, du quartier entre elles, du parler des violences, parler de qu'est-ce qu'elles mettent en place pour se protéger, etc. Et il y en a deux, trois qui, dans cette rencontre, ont commencé à parler des prix. Et là, elles se sont engueulées, mais comme pas possible, parce qu'en fait, il y avait des mamas dans l'histoire. Mais nous, on ne les avait pas identifiées, il n'est pas marqué mama sur leur front.
Ah, oui, okay.
Et on avait planifié, en fait, une autre rencontre, où on s'était dit, là, on va vraiment aborder la question du prix et on va cibler certaines filles. Parce qu'on va éviter comme ça d'inviter les mamas qui
les
ont
mamas,
vraiment...
Les mamas, bien sûr. Ouais. Une mamie sur eux, quoi.
Eh bien, lors de cette réunion, il n'y a eu personne.
Ah ouais.
Oh, wow.
Elle pouvait pas venir.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre les mamas entre elles qui ne s'entendent pas, qui ne se voient jamais, on fait une réunion. Et on mis comme un mot d'ordre de dire, eh ben, on va imposer à toutes celles sur qui on a une mainmise, une emprise, no way, quoi. Vous n'allez plus. Mmh. Et il y a des filles qu'on n'a plus retrouvées.
Ah,
elles ont changé de ville, voire de pays.
De pays, quoi. Ouais.
Donc, c'est un message clair aussi pour nous. Hein, non, de dire, on vous tolère, mais après, non, c'est quand même pas... notre business, ouais. Et non, vous y touchez, quoi.
Non, faites pas trop, quoi.
Mais voilà.
Ouais. Je voudrais qu'on revienne, tu parlais des 35 ans, enfin, de Space P, il y a un truc qui va se faire, enfin, justement, c'est pour mettre un peu le truc en avant aussi.
Oui, ben donc le 18 avril prochain, donc c'est jeudi 8, on va faire un événement sous forme d'un mini-festival au C12, donc qui se trouve
au
marché aux herbes près de la Grand Place. Où, voilà, le thème, c'est « Come for the cause, stay for the fun », où, bah voilà, il y aura un open mic avec des prises de parole de TDS, de non-TDS, de qui veut, voilà, pour parler de soi et des réalités par rapport au TDS. Il y aura une exposition avec des témoignages et des œuvres artistiques composé par et pour les TDS. Il y aura un stand-up avec des humoristes. Donc, il y aura Cody, qui est aussi le parrain de l'événement. Il y aura Farah, Serena Yari et Pierre-Emmanuel alias PE. Ensuite, on a un concert de Camille Will, qui en fait fait du hip-hop rock également. Mmh. Et puis, on a un DJ set de Voodoo Mama, Tropiclo et Pierre du Fuse qui viendra mixer. Et cette soirée est présentée par Fanny Gillard. Vous pouvez prendre toutes les informations sur espacep.be/35ans. Le tarif est de 15 euros pour l'ensemble de l'événement.
Et va au soin pour les travailleurs, je sais pas. Enfin, c'est une blague.
Être travailleuse du sexe, c'est gratuit.
Non, mais enfin, laisse-moi. Par contre, on va finir sur un coup de tête. Genre, ben voilà, j'aime pas ça. Et voilà.
Je suis pas sûre qu'on aura le temps. Ou alors, on va devoir le faire très court. Parce qu'en plus, si ça te dit, il y a Camille Well qui est pour clôturer. Et comme il est 57, ou très très rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ben, c'est un truc vite fait. Genre, ouais, les politiques.
Bah, j'ai un truc vite fait qui est d'arrêter de stigmatiser les travailleuses du sexe et qu'il faut vraiment être dans un esprit beaucoup plus inclusif par rapport à ces personnes, parce que ce sont des êtres humains avant tout. Et avant de les juger et de les traiter de moins que rien, il faudrait d'abord les inclure et les accepter telles qu'elles sont.
Très bien dit.
Oui. Et alors, on remercie Espace P et donc toi d'être venu pour présenter ça. Toutes les infos donc, sur espace.com. Hein.
Espacep.be, vous avez toutes les infos. Ben voilà.
Et on dit mais, au revoir aux auditeurs, auditrices.
Merci.
Quelques,
vous savez, à la prochaine.
À bientôt.
À la prochaine.
Bonne soirée, ciao.
Ciao. Au revoir.
My brain is shrinking alone in its cage. My eyes are dry and my feelings are vague. Rolling in circles, I'm living as dead. Silence a freak when you're living aside. Far from the pulse of the world turning mad. Working too hard, have no space to hide. What can I write when I need to get high? My veins do burn in the smoke of my pain. Rising some hope for the sake of my girl. I need to bang for the sake of my soul. My body fades and I'm lost in the game. I'm